Alors nous sommes dans le deuxième message sur le livre de l'Apocalypse. Si vous étiez là au premier message, vous vous rappelez sans doute que Apocalypse, ça ne veut pas dire cataclysme, ça ne veut pas dire fléau, ça veut dire révélation. Et l'Apocalypse de Jésus-Christ, c'est la révélation de Jésus-Christ. Ce livre nous révèle Christ dans toute sa gloire et en tant que Sauveur, Rédempteur, mais aussi en tant que roi qui va revenir juger la terre et régner sur la terre. C'est notre attente, c'est la fin de l'histoire de la terre. Ce n'est pas simplement la fin d'un monde, mais c'est la fin de l'histoire lorsque Dieu triomphe de tout péché, de tout mal, de toute injustice. Tout sera jugé, tout sera réglé par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est tellement important de connaître Jésus-Christ et de se positionner par rapport à lui. Qui est-il pour moi? Est-ce qu'il est mon sauveur ou est-ce qu'il est mon juge? Est-ce que je devrais plier le genou de force lorsqu'il reviendra ou est-ce que je plie le genou aujourd'hui avec adoration? Celui qui écrit le livre de la révélation de Jésus-Christ, c'est Jean. Et nous sommes au verset 9 du chapitre 1. Où il est écrit « Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre » et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Effectivement, l'île de Patmos, qui est une des îles grecques, toute petite, est une île qui servait de déportation pour toutes sortes de prisonniers, notamment pour les chrétiens. C'est l'empereur Dioclétien qui a envoyé Jean en exil, à cause de son témoignage, dit-il, à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus. Il a été envoyé là parce qu'il témoignait trop fort, parce qu'il dérangeait. Jean a passé un certain temps à Éphèse, et à Éphèse, il y avait un grand commerce qui était connu mondialement. Une grande religion qui marquait cette ville, c'était Diane, la fameuse Diane des Éphésiens. Diane, c'était une sorte de Vierge Marie païenne. Et c'était une déesse qui était vénérée dans tout l'Empire romain, mais qui avait son origine à Éphèse. Éphèse, c'est aujourd'hui en Turquie. Et c'était en Asie mineure à l'époque, ce n'était pas encore la Turquie. Et là, il y avait un commerce parce qu'on vendait les statues de Diane. Ça me fait vraiment penser à la Tour Eiffel et aux petites... Chose où ça me fait penser malheureusement aux statues de la Vierge qui sont vendues beaucoup plus que la Tour Eiffel, notamment à Lourdes ou dans des endroits comme cela. Et lorsque l'évangile est arrivé à Éphèse, lorsque les apôtres ont prêché, notamment Paul, et puis ensuite quand Jean est devenu pasteur là, le commerce de Diane a sombré. Pourquoi ? Parce que les gens ne voulaient plus vénérer Diane, ils voulaient vénérer le Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu un scandale dans la ville. Tous les orfèvres sont allés voir le responsable de la ville. Ils ont dit, c'est pas possible, on perd de l'argent à cause de ces satanés chrétiens. Et ils ont été persécutés, Paul a été persécuté, et ils ont énormément souffert. Ils ont failli mourir tellement la violence de la foule était grande. Ils ont failli se faire lyncher. Et à cause de leur témoignage, finalement, on a mis les chrétiens dehors et Jean s'est retrouvé en exil à Patmos. C'est dur d'être en exil, vous êtes loin de votre famille, loin de votre pays, vous n'êtes pas libre, il était prisonnier à Patmos. À Patmos, vous pouvez visiter une grotte qui peut-être est la grotte où se réfugiait Jean pour prier. Et là, le jour du Seigneur, il a été saisi par l'Esprit. C'est-à-dire que le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Il devait passer du temps, c'était le jour consacré au Seigneur. À propos, est-ce que nous avons un jour consacré au Seigneur? c'est sûr que pour nous, dans le Nouveau Testament, tous les jours sont consacrés au Seigneur d'une certaine façon. Nous n'avons plus le Shabbat, le samedi, mais nous avons tous les jours pour Dieu. Parce que il n'y a pas le dimanche pour Dieu, puis le lundi c'est pour moi, et le mardi c'est pour le péché, le mercredi c'est pour la télé. Non. Si nous sommes vraiment chrétiens, tous les jours sont pour Dieu. Quand on est au travail, on est avec Dieu. Quand on est dans sa famille, on est avec Dieu. Quand on conduit, on est avec Dieu. Quand on est dans le métro, on est avec Dieu. Tous les jours. Mais c'est vrai que depuis le début de l'Église, il y a un jour consacré, c'est le dimanche. Et c'est important de mettre à part un moment consacré à Dieu. Même si ça nous coûte un peu, on dit « Ah, mais là, j'ai des révisions. Là, il faut que j'ai des amis, j'ai la famille qui veut venir manger. » Non, c'est pour le Seigneur. Premier dans ma vie, le Seigneur. La famille, elle apprendra à venir le dimanche soir ou à un autre moment, mais le jour du Seigneur, c'est pour le Seigneur. Il fut saisi par l'Esprit, ça veut dire qu'il a été vraiment transporté consciemment. Ce n'est pas une transe. Une transe, c'est lorsque vous perdez quasiment connaissance, c'est-à-dire dans une transe, vous êtes tellement transporté que vous ne maîtrisez plus rien. Là, c'est que consciemment, dans son esprit, il est transporté dans un autre univers, si on peut dire, et il voit un certain nombre de choses. Dieu lui montre un certain nombre de choses. Et la première chose qu'il voit, c'est quelqu'un. Verset 12. « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Donc, dans cette vision qu'il a, il se retourne, il voit sept chandeliers en or, et au milieu, un homme avec une longue robe et une ceinture d'or. C'est une drôle de vision, et en fait, ce qu'il voit là, c'est Jésus-Christ glorifié. Pourquoi la ceinture d'or et la longue robe? Eh bien, la ceinture d'or, elle était pour le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Le souverain sacrificateur qui officiait dans le temple avait une robe blanche de lin et une ceinture tressée et en or. Et Jésus est notre souverain sacrificateur, c'est-à-dire il est celui qui fait la paix entre Dieu et nous. Celui qui est le sacrifice et le sacrificateur entre Dieu et nous. Parce que nous ne pouvons pas nous sauver tout seuls. Il faut que quelqu'un nous sauve. Nous avons besoin d'un sauveur. Cette voix d'homme sonne comme une trompette. Je pense que c'était pas une trompette, mais c'était une voix retentissante qui l'a réveillé fortement. C'était une voix surhumaine. C'était pas simplement un homme qui l'a vu. Les hommes n'ont pas des voix de trompette. Et il lui dit, écris dans un livre et envoie-le aux sept églises. Il y a beaucoup de critiques de la Bible qui disent, oui, la foi, que ce soit les juifs ou les chrétiens, c'était la tradition orale. Alors on disait, oh, j'ai vu ça, j'ai fait ça, Dieu me dit. Et puis après, c'était déformé. Vous savez, quand on fait le téléphone arabe, ça commence bien, et puis le dernier qui transmet, il n'a rien compris. Et donc, beaucoup de gens pensent que la Bible, ça s'est fait comme ça. La tradition orale, et puis le dernier qui parle a raison. Mais ce qu'on remarque à chaque fois dans tous les livres des prophètes, c'est qu'ils ont écrit. Dieu a dit à Ésaïe, écrit, a dit à Jérémie, écrit à Ézéchiel, écrit à Daniel, écrit, et à Jean, écrit. Les apôtres ont écrit, Paul a écrit, et les quatre évangiles sont des écrits qui ont circulé assez tôt après la résurrection. Hein, on parle de 60, les années 60 pour l'évangile de Marc, et certains pensent que l'évangile de Matthieu était encore plus tôt, dans quelques années après la résurrection de Christ. Donc la Bible, c'est un livre écrit. Pourquoi Dieu a voulu que ce soit écrit? Parce que l'écrit, justement, ne se déforme pas facilement. Nous avons des milliers de manuscrits très anciens qui nous permettent de retrouver le texte original de la Bible, parce qu'on n'a aucun original, mais on a tellement de copies que notre copie est fiable et bonne. Pourquoi il voit sept chandeliers? Eh bien, on apprend plus tard dans le texte que les sept chandeliers, ce sont sept églises. Pourquoi les églises sont-elles comme des chandeliers? Parce qu'elles sont des lumières. À cette époque-là, il n'y avait pas l'électricité. Les seules sources de lumière, c'était les lampes à huile et les chandeliers qui se faisaient avec de la cire ou de l'huile. Et les églises représentent cette lumière dans le monde. Ça veut dire que lorsque Christ a fondé l'église et les églises locales, c'est pour qu'elles éclairent leur entourage. L'église n'est pas là juste pour nous réjouir tous ensemble à l'intérieur. Ce n'est pas un club de gens religieux qui partagent la même passion pour la Bible ou je ne sais pas quoi et qui disent « Ah, on est bien ensemble, on va faire un club. » L'Église n'a jamais été ça dans le plan de Dieu. L'Église, c'est vrai, c'est premièrement une famille chrétienne, mais qui est destinée à grandir et à faire connaître la lumière autour. Depuis le commencement de l'Église, Jésus a toujours voulu que les chrétiens aillent porter la bonne nouvelle. D'ailleurs, son commandement dans le livre des Actes aux apôtres, il a dit, après sa résurrection, « Je vous envoie d'abord en Samarie, et puis en Judée, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et comme les premiers chrétiens de Jérusalem n'ont pas tout à fait obéi, parce qu'ils se sont bien installés à Jérusalem, il y a eu une persécution qui les a dispersés, et là, ils ont commencé à vraiment évangéliser. Parce que c'était le plan et la volonté de Dieu. Une église qui ne brille pas, qui n'éclaire pas, a perdu son sens. Est-ce que nous sommes une église qui brille? Est-ce que nous apportons une lumière quelconque au dehors? Est-ce que nous éclairons les gens sur leur vie, sur Dieu, sur la vie éternelle, sur les choses essentielles de la vie, sur le mal, le bien, le péché, la justice? C'est ça que doit être une église. Et si une église ne brûle plus, ne brille plus, elle ne sert à rien. Un chandelier éteint ne sert à rien. Ah, c'est sûr, vous pouvez le mettre en haut de votre bibliothèque. Regardez, j'ai un beau chandelier. Ah oui, c'est joli. Mais ça ne sert à rien. On ne peut rien faire avec. Même pas planter un clou. Une église qui brille, qui brûle, elle est utile à la société. Et surtout, elle glorifie Dieu. Cette personne que Jean découvre est extraordinaire. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Vous avez déjà été près de chutes spectaculaires, de chutes d'eau? Quelqu'un a été aux chutes du Niagara déjà? Il y a des chutes aussi en France. Nous, moi j'en avais vu à l'île de la Réunion. Vous ne pouvez plus vous entendre quand vous êtes près des chutes d'eau. On ne s'entend plus, on se parle. C'est trop fort. Et cette voix qu'il entend, c'est des chutes d'eau. C'est une voix qui a une autorité absolue. C'est une voix à qui on ne répond pas. Ce n'est pas juste un homme qui lui parle, c'est Dieu lui-même. D'ailleurs, on retrouve une vision similaire dans le livre de Daniel. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le livre de Daniel? Est-ce que vous vous rappelez ceux qui ont entendu le premier message? Voilà, c'est le parallèle de l'Apocalypse dans l'Ancien Testament. Si vous voulez comprendre l'Apocalypse, il faut connaître Daniel, parce qu'il a plein de clés qui ouvrent le livre de l'Apocalypse. Et dans Daniel 10, verset 5, Daniel a une vision aussi. « Je levais les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix comme le bruit d'une multitude. » C'est très très proche du texte de l'Apocalypse. Il voit la même personne. Et puis, en Daniel 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des Jours s'assit. L'Ancien des Jours, c'est Dieu, hein? Dieu le Père. Son vêtement était blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. C'est l'image du feu, du jugement, de la sainteté absolue, de la gloire, de l'autorité, de la puissance, de la royauté. Et c'est Jésus. C'est un peu surprenant parce qu'on est tellement habitué à voir le bébé Jésus dans sa crèche. On est tellement habitué à voir Jésus sur la croix, faible et mourant. Et là, on voit un Jésus complètement différent. Le Jésus ressuscité, le Jésus glorieux, le Jésus transformé qui a retrouvé la gloire. Quand Jésus parle à ses disciples dans l'évangile de Jean, il leur dit « J'ai quitté ma gloire et je vais la retrouver ensuite quand je vais repartir vers mon Père. » Cette gloire, c'est cette vision-là, c'est cet aspect glorieux. Christ l'a quitté pour venir sur la terre nous sauver, mais il l'a retrouvé. Et aujourd'hui, il est comme ça. Ça nous fait du bien un peu de réaliser que Christ est comme ça. Christ n'est pas mon copain. Et parfois, nous sommes un peu légers avec le Seigneur. Lorsque Jean a vu Christ, verset 17, il est tombé à ses pieds comme mort. Il est tombé évanoui. Boum. Et j'ai regardé dans la Bible, il y a plein d'hommes comme ça dans la Bible qui ont eu cette expérience. Abraham est tombé sur sa face quand il a eu une révélation de Dieu. Josué est tombé le visage contre terre quand il a vu Christ lui parler. Ézéchiel est tombé sur sa face. Daniel est tombé comme mort. Ésaïe. Pareil, Paul, lorsqu'il a vu Christ ressuscité, il est tombé de cheval. Il était aveugle pendant plusieurs jours. Qu'est-ce que ça nous révèle ? Que Dieu est un Dieu saint, un Dieu de gloire. Ce n'est pas un vieillard barbu et sénile. Notre Dieu est glorieux. Et pour l'instant, sa gloire n'est pas descendue sur la terre, parce que ce n'est pas le jour du jugement. Mais quand elle va descendre, ça va faire mal. Et Jean a eu ce privilège de voir le Seigneur dans sa gloire. Je pense qu'on aurait besoin, nous, de révélations de Dieu de temps en temps. On s'habitue à la vie chrétienne, on s'habitue à la foi, on devient un chrétien traditionnel, on fait les choses parce que c'est une habitude, c'est une tradition. Là, vous n'êtes plus dans la tradition, là, vous êtes dans la révélation glorieuse. Jean n'était plus le même après ça. Vous ne pouvez plus être la même personne. Vous avez une révélation de Dieu. Je ne dis pas qu'on doit voir forcément un être lumineux parce que la Bible nous met en garde. Attention, Satan se déguise en ange de lumière. Je ne prône pas les visions du tout. Par contre, lorsqu'on lit la Bible, est-ce qu'on cherche à rencontrer Dieu ? Lorsqu'on prie, est-ce qu'on réalise que Dieu est là et nous entend ? Aussi incroyable cela puisse paraître, ça arrive souvent que l'on prie sans réaliser que c'est à Dieu qu'on prie. Parfois, en réunion de prière, on prie pour les autres. Soit pour leur montrer qu'on prie très bien, soit pour leur faire passer un message, soit pour faire une prédication, hein, les prières prédications sont courantes. Mais est-ce qu'on réalise que Dieu nous entend, que Dieu est là quand on prie ? Si je suis un enfant de Dieu, mon Père m'écoute quand je prie, parce que je prie au nom de Jésus, le Sauveur. Lorsqu'un chrétien a une révélation de Dieu dans sa vie, il n'est plus pareil. Je donne souvent l'exemple de Dwight Moody, qui était un jeune homme très fervent pour le Seigneur. Il avait été cordonnier Et il était touché par les enfants un peu perdus et il s'occupait d'eux, il leur parlait de Jésus, il les amenait à l'église. Il était leur pasteur, si on peut dire. Et puis il est devenu un évangéliste, il a commencé à prêcher. Et puis un jour, des femmes ont commencé à voir en lui un potentiel. Des vieilles dames de l'église ont prié pour lui. Mais très sérieusement. Et un jour, qu'il priait dans sa chambre, il a eu une révélation de Dieu. Et il raconte dans sa biographie, son autobiographie, il dit « C'était des fleuves d'amour qui arrivaient et qui me submergeaient. Et au bout d'un moment, j'ai dit « Ça suffit, Seigneur, stop, j'arrive plus, j'en peux plus. » Et il dit « Cet amour coulait, cette sainteté, cette gloire. » Et quand il s'est levé, il n'était plus le même homme. Il y avait un nouveau Moody. Quand il a prêché, les gens étaient bouleversés. Pourtant, il n'a pas vraiment changé ses messages. C'est ça qui est frappant et il le dit lui-même. Je n'ai pas modifié le texte de mes messages. Mais quand il parlait, c'était réel. Il avait pas vu le Seigneur, mais presque. Quand il parlait des choses éternelles, pour lui, c'était vrai. Ce n'était pas comme un pasteur ou un prédicateur parfois peut faire, c'est-à-dire on a l'impression que c'est théorique. Il existe un paradis, il existe un enfer. C'est un peu théologique. Et je me bats contre ça, personnellement, contre moi-même, pour ne pas tomber là-dedans, d'être juste théologique. Quand on est théologique, il ne se passe rien. Quand on est dans la réalité, et là, Jean, il est dans une nouvelle réalité, Dieu est vivant. Dieu est glorieux et il est saint. Il va juger le monde. Et quand il tombe par terre, une main le touche. Verset 17. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point ». C'est quelque chose. Il est tellement choqué de cette vision glorieuse qu'il tombe évanoui et la main du Seigneur le touche et dit « Ne crains pas ». Pourquoi elle lui dit à lui « Ne crains pas » ? Parce que Jean a cru au Seigneur. Jean est un enfant de Dieu. Et avec les enfants de Dieu, Dieu dit « Ne crains pas ». Ma sainteté ne va pas te tuer, ne va pas te juger, parce que toi, tu es sauvé, tu es pardonné. Ma sainteté va juger le monde, oui. Mais ceux qui sont sauvés, ceux qui appartiennent au Seigneur, qui ont le sceau du Saint-Esprit, ceux-là sont épargnés, sont pardonnés. Et Jean donc peut se relever et être fortifié pour écrire. Jésus dit, verset 18, « Je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Hein. J'étais et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. » C'est quelque chose ça, hein? J'étais mort, mais je suis vivant. Christ est vivant. Il n'est pas resté sur la croix. Et puis il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Combien j'ai pu raconter d'histoires avant d'être chrétien avec Saint-Pierre. Je ne sais pas si vous en avez connu aussi. Saint-Pierre avec les clés du paradis. Et alors, il y a toujours des histoires plus ou moins drôles. Hein, un rabbin, un prêtre, un imam arrive devant Saint-Pierre. Eh bien, Saint-Pierre n'a pas les clés du paradis, parce que la Bible dit que c'est le Seigneur Jésus qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Le séjour des morts, c'est l'enfer, en fait. Hein? C'est le Hadès en grec. C'est là où sont les âmes perdues. C'est Christ qui a cette clé. Et c'est par Christ qu'on est sauvé ou perdu, qu'on va au paradis ou en enfer. Ce n'est pas avec Saint-Pierre. Ce n'est pas en faisant des prières à l'église, en priant tel ou tel saint. C'est en rencontrant Jésus-Christ par la foi, en lui demandant pardon pour nos péchés et en lui demandant de nous sauver. Là, on peut devenir un chrétien véritable. Et quand on a Jésus pour sauveur, il nous ouvre la porte du paradis. Il dit même, je vais vous préparer une place. C'est merveilleux ça. D'avoir une place toute préparée. Ce n'est pas moi qui dois chercher ma place, ce n'est pas moi qui dois préparer ma place en me disant, si je suis un bon chrétien, peut-être que j'aurai une place au paradis. Ça, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas l'Évangile. On ne prépare pas sa place tout seul. C'est Jésus qui dit en Jean 14, « Je vais vous préparer une place. » Qu'est-ce qu'on a à faire, nous ? À recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Et puis, pour terminer, il dit, verset 19, « Écris ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Ça, c'est la clé du livre de l'Apocalypse. Beaucoup de gens sont perdus dans le livre de l'Apocalypse. Ils ne savent pas si ça parle du passé, du futur, du présent, on ne sait pas. Ici, vous avez le plan du livre. Écris ce que tu as vu. Qu'est-ce qu'il a vu, Jean ? Il a vu le Seigneur dans sa gloire. Écris ce qui est. Ce qui est, c'est la situation des sept églises dont il va parler juste après. Et ensuite, troisièmement, écris ce qui doit arriver ensuite. Là, c'est les jugements de Dieu, la tribulation, le retour de Christ. Parce que Dieu va juger ce monde et Christ va revenir. Donc, si vous ne comprenez pas le livre de l'Apocalypse, déjà, vous avez un plan. Chapitre 1. C'est écrit ce que tu as vu. Chapitre 2 et toutes les églises jusqu'à 3, c'est écrit ce qui est. Et à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin, vers chapitre 22, écrit ce qui doit arriver dans la suite. Les sept églises sont sept étoiles, verset 20, dans la main droite, sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont sept anges, verset 20. Les anges des sept églises. Alors la question que se posent les commentateurs bibliques, c'est est-ce qu'il y a un ange pour chaque église locale ? Alors, il faut se rappeler que dans le grec, ange, ça veut dire messager. Ça ne veut pas forcément dire un être angélique avec des ailes. Un messager, c'est un ange. Et donc ici, ce sont des messagers des églises. Il semblerait que Jean ait rencontré des personnes qui représentaient chacune des sept églises. Il leur a donné un message, il a dit maintenant vous allez le communiquer à vos églises. Est-ce que c'était des pasteurs ? Est-ce que c'était juste un messager ? On ne sait pas. Mais il n'y a pas un ange qui veille sur chaque église parce que le chef de l'église c'est Christ. Il n'a pas besoin d'ange pour veiller sur nous. Le Seigneur veut parler à notre église. Le Seigneur tient notre église dans sa main comme il tient toutes les églises chrétiennes. Et il a des messages à nous faire passer, on le verra la prochaine fois, des messages sans compromis. Les églises ont besoin de se réveiller. Particulièrement en France, la situation des églises est vraiment lamentable. D'abord, il y en a peu. Ensuite, elles ne suivent pas toujours les Écritures. Et enfin, les chrétiens sont souvent découragés, affaiblis, déçus. Beaucoup sont sans église. Combien de chrétiens disent, là j'ai encore eu un qui m'a écrit d'un autre pays qui m'a dit « Oh j'ai eu des problèmes à l'église et maintenant je prie le Seigneur tout seul chez moi. » Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout seul vous n'avez pas la communion fraternelle, vous n'avez pas les exhortations, les encouragements. Tout seul vous ne vous remettez quasiment jamais en question. Quand vous êtes dans l'église, normalement vous devez être remis en question. Et le fait de se frotter à des frères et sœurs, pas toujours facile. Est bon pour nous, c'est pour notre sanctification. Ça nous oblige à apprendre l'amour. Quand vous êtes tout seul, vous vous aimez bien vous-même, n'est-ce pas ? Dans l'ensemble, on s'aime bien. Et je dirais que notre problème en général, c'est qu'on s'aime trop. Mais quand on est dans une église, le Seigneur dit « Aimez-vous les uns les autres. » Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est le plan de Dieu dans l'Église. Et ça, ça demande la foi, parce que sans la foi, on n'y arrive pas. Ce qui m'a frappé dans ce passage, cette vision de Christ glorieux, c'est que justement, Jean est sorti de lui-même et il a vu le Seigneur et le Seigneur a rempli sa vision, comme on l'a chanté, hein, « Rempli ma vision ». Nous sommes trop souvent accaparés par nous-mêmes. Nos soucis, notre aspect physique ou je ne sais pas quoi, nous sommes égocentriques. Et quand on est égocentrique, on est malheureux parce que notre ego ne nous rend pas heureux. Notre ego n'est jamais satisfait, jamais content. Notre ego demande toujours plus et souvent il demande des choses viles, des choses qui nous abaissent, qui nous souillent. Mais Christ, lui, nous élève, nous sanctifie. Quand on est avec Christ, on est une personne glorieuse comme Christ est glorieux. Quand on est égocentrique, on est une personne peu aimable, peu intéressante, parce qu'on ne pense qu'à soi. Et j'aimerais qu'on pense tous à ça. Est-ce que je suis la plupart du temps égocentrique? Ou est-ce que Christ remplit ma vision? Est-ce que Christ remplit ma vie comme il a pu le faire pour Jean? Est-ce que je vois le monde, l'histoire du monde, tout ce qui se passe dans ma vie avec la lumière de Christ? Ou est-ce que je le vois juste avec mes petits Bobo, mes petits soucis? Nous allons prier pour terminer. Le Seigneur nous appelle à sortir de nous-mêmes. Il veut nous ravir en esprit comme il l'a fait pour Jean. Il veut se révéler à nous. Est-ce que nous avons des yeux pour le voir, des oreilles pour l'écouter? Est-ce que nous voulons vraiment connaître le Seigneur qui se révèle à nous? Si oui, mais on peut prier dans notre cœur, « Seigneur, révèle-toi. Montre-moi ta gloire comme tu l'as fait à Moïse. Montre-moi quel grand Dieu tu es. Seigneur, j'ai fait de toi un petit Dieu. » Une sorte de génie qui sort de la lampe quand j'en ai besoin. Mais Seigneur, je comprends que tu es un grand Dieu, souverain. Ce n'est pas moi qui vais te donner des ordres, Seigneur. C'est toi qui commandes toutes choses, qui vas juger le monde. C'est toi qui m'as sauvé et racheté par ta grâce. Et si nous avons était centré sur nous-mêmes, nous pouvons prier, « Seigneur, pardonne mon péché d'égocentrisme. » De ne penser qu'à moi en premier, tout le temps à moi, au lieu de penser à mon Sauveur, à mon Seigneur. Seigneur, je veux que tu prennes la première place dans ma vie, que tu sois sur le trône de mon cœur. Enlève toute idole, et surtout mon égoïsme qui cherche toujours la première place. Seigneur, deviens mon Seigneur, mon Dieu, que ces mots soient réels. Je prie, Seigneur, que tu sois réel dans nos vies, que tu ne sois pas une théologie, que tu ne sois pas une religion, mais que tu sois le Fils de l'homme glorifié que Jean a vu. Ressuscité. Seigneur, nous te louons parce que tu es le premier, le dernier, tu es le vivant, tu as les clés du séjour des morts. Merci de nous préparer une place au ciel. S'il y a ici quelqu'un qui n'est pas sûr d'avoir une place au ciel, vous n'êtes pas sûr d'être en paix avec Dieu, c'est votre occasion maintenant de demander pardon pour tous vos péchés, de reconnaître que vous êtes fondamentalement pécheur, que vous êtes coupable aussi envers Dieu, votre Créateur, de lui dire, Seigneur, je te demande pardon. J'ai fait beaucoup de fautes, mais je crois que Jésus a payé pour moi. Je crois qu'il a été puni à ma place. Et je lui demande de me pardonner toutes mes fautes et de me donner une place au ciel, comme cadeau. Merci, Seigneur. Amen.